carnets de campagne. Bonjour les carnets, toujours dans le département de l'Ain. Comme on va se rendre dans un court instant à Ferney-Voltaire, je signale l'ouverture depuis janvier 2015 d'une grande librairie associative en place d'une librairie défunte. Et là, des lecteurs et des clients ont décidé d'ouvrir un nouvel espace en mode coopératif. Librairie-centre-ferney.fr pour l'adresse, ça vous intéresse, allez les voir. Justement à Ferney-Voltaire, chez Voltaire, face à Genève, chez Rousseau, les deux se toisaient depuis leur point d'attache. Nous allons rejoindre Xavier Mosselin, membre de l'association collégiale des Amitoyens qui relance un programme de construction, d'habitat coopératif et écologique. Et puis nous saluerons aussi le bel entêtement de jeunes du MRJC de l'Ain qui prépare l'aménagement de ce qui sera bientôt la fabrique du monde rural en Revermont. Élie Janin nous conduira sur les lieux des travaux.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Xavier Mosselin, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Xavier, président de l'association Les Amitoyens, ce sont les voisins, les citoyens et les amis, projet d'habitat coopératif écologique à Ferney-Voltaire. L'histoire remonte à 2009, il y a eu un premier projet qui a été abandonné.
Oui, parce que l'équipe municipale qui soutenait le projet n'a pas été reconduite en 2014, mais tout de suite un petit correctif. En fait, maintenant l'association est passée en collège. Donc il n'y a plus de notion de présidence.
Oui, association collégiale où chacun prend les mêmes responsabilités, il n'y a pas de hiérarchie d'organisation, il y en a de plus en plus comme vous. Vous avez relancé donc le projet. D'abord, un rappel sur à quoi correspondent les Amitoyens à Ferney-Voltaire, en habitat coopératif exactement.
Alors le principe c'est de partager au sein de maisons mitoyennes ou d'un seul bâtiment des biens et des services, par exemple la buanderie, un atelier, d'avoir une pièce commune avec peut-être une cuisine, de mettre aussi à disposition des logements pour recevoir la famille et les invités, de partager ça. Donc c'est vraiment pour un changement de modèle de société et de consommation.
Oui.
Plutôt que chaque personne dans son habitat individuel et sa tondeuse, on peut très bien envisager d'avoir une tondeuse dans un quartier résidentiel pour 10, 15 maisons individuelles.
Bien sûr.
Donc, voilà, donc ça c'est le principe de l'habitat groupé en général. Et pour l'habitat coopératif, la grande différence c'est que le statut coopératif fait que nous sommes collectivement propriétaires du bâti et individuellement locataires du logement. Donc ça permet de couper court à toute spéculation.
Mmh.
Et il y a aussi un enjeu patrimonial très important, c'est que ça décorrèle le patrimoine familial de la pierre. Et là, en habitant dans un habitat coopératif, on lègue du patrimoine qui peut être représenté sous d'autres formes, mais on n'est pas propriétaire de son logement.
Alors, quand on porte ce genre de projet, est-ce que on réhabilite de l'ancien ou obligatoirement on va vers du neuf à construire ?
Ah, peu importe en fait. Nous, en l'occurrence, c'est pour construire. L'arc alpin, c'est la région d'Europe où il y a la plus grosse pression foncière.
Oui.
Et le pays de Gex en souffre particulièrement. La classe moyenne française, avec des salaires français de postiers, d'enseignants, ne peuvent pas se loger sur place. Un exemple, c'est un T3, 80 mètres carrés, c'est minimum 1 500 euros, et ça dépasse facilement les 2 000 euros. Et donc, il n'y a pas forcément énormément à réhabiliter, et donc les Amitoyens démarrent un projet de construction.
Oui,
voilà.
Et là, vous êtes soutenu par la communauté de communes.
Tout à fait, oui. Et qui a identifié des enjeux clairs, notamment ces enjeux de spéculation, de logement où on délocalise, enfin, les salariés français sont obligés d'aller habiter loin de leur lieu de travail, et aussi la vitesse à laquelle poussent tous ces quartiers, parfois en dépit du bon sens, en termes d'urbanisme, et il y a une dislocation en fait d'un tissu culturel qui existait, qui était très rural. Et comme en gros, c'est quand même un territoire dortoir,
oui,
banlieue de Genève,
oui,
il y a un enjeu culturel à dynamiser, à animer la vie culturelle. Même s'il y a énormément d'associations, il y a un super cinéma à Ferney-Voltaire, il y a plein de choses intéressantes qui se passent, mais c'est un enjeu. Voilà.
Oui, oui. Alors justement, contre cette disparité sociale, cette fracture qui est de plus en plus marquée au niveau de l'immobilier, de la construction et de l'habitat. On pense donc Gex, territoire maintenant de familles plutôt aisées avec les moins aisées qui vont dans l'arrière-pays. Mais votre voisin, le canton genevois, On l'associe aussi à une richesse. Il comprend beaucoup de groupements d'habitats coopératifs.
Oui, 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 énormément. En fait, une forte source d'inspiration.
Bah oui. Mais comment vous expliquez ça, vous, Xavier?
C'est peut-être culturel. Enfin, là, je sais que les premières coopératives menées par une organisation qui s'appelle la CODA, elles ont maintenant plus de 20 ans. C'est pas les mêmes lois non plus. Les cantons sont autonomes en termes d'investissement. Par exemple, le canton de Genève, tout de suite, a fait porter garant pour ces projets-là. Mmh. Donc, très facilement, les banques ont suivi.
Bien sûr.
Chez nous, c'est un enjeu de trouver les banquiers qui acceptent de changer leur modèle de prêt et trouver le soutien des pouvoirs publics. Maintenant, ça arrive, mais ça nécessite de mûrir, ça prend du temps.
Xavier, dernière chose, vous pensez entrer dans les murs à quelle date?
Alors, en étant même pessimiste, hein, disons 2021-2022, ça peut aller plus vite. C'est un long projet parce que l'ambition est de faire de la mixité sociale, donc il y a du travail avec un bailleur social, et le prix du terrain étant tellement cher, on est obligé de rentrer en partenariat avec les pouvoirs publics pour mettre en place un bail emphytéotique, c'est-à-dire de louer le terrain sur 50 ou plus. Donc c'est toute cette démarche de conciliation et de travail de partenariat qui prend du temps.
Ouais. On vous souhaite bon courage dans cette aventure. Le site, enfin le blog, c'est amitoyen.blogspot.fr. Ça va s'afficher à nos pages d'émission. Merci Xavier.
Merci à vous Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Place aux jeunes, dit l'ancien. Lucille, 23 ans, cafetée par son père, vient de créer un festival itinérant, la voile des colporteurs, des compagnies des arts de la rue à travers des villages. À Dodane, 12 ânes, 25 villages traversés, 30 artistes et techniciens, 22 créations. Les ânes aussi chez Élise et Eric, qui ont tout plaqué depuis 6 ans pour s'installer dans le Haut-Buget, à 900 mètres d'altitude, en contrebas du plateau du Rotor, avec leurs 30 ânes pour produire une gamme de soins naturels diffusés en pharmacie sous le nom d'Essena. Avec la proximité suisse, les produits bénéficient de recherches et technologies élaborées en Suisse. Essena.fr. Et puis un troisième exemple de jeunesse motivée, Élie Janin. Élie, bonjour.
Bonjour.
Élie, membre du mouvement rural de jeunesse chrétienne, le MRJC de l'Ain. Et vous êtes salarié de la Fabrique du Revermont depuis l'année dernière. Alors, la Fabrique du Revermont, c'est un projet qui s'est implanté dans une communauté de communes de Tréfort, en Revermont. Il correspondait à quoi, ce projet, au départ?
Alors, au départ, c'est l'idée de créer un lieu d'animation et de rencontre en milieu rural. C'est un collectif de jeunes qui ont l'idée de créer voilà un lieu qui soit ouvert à tous, qui participe à l'animation du territoire, au vivre ensemble et à la rencontre entre les gens du coin.
Et c'est un concept nouveau que cette fabrique du monde rural, comme vous l'appelez?
Alors le concept de fabrique du monde rural, il est né d'une réflexion du MRJC au niveau national,
oui.
Qui fait qu'aujourd'hui on a plusieurs projets de fabrique partout en France. On a actuellement un projet dans l'Oise, un en Haute-Saône, un dans la Creuse, et donc celui qui me concerne dans le Revermont, dans le département de l'Ain.
Alors, vous avez fait une étude, un diagnostic de territoire dans ce territoire qui comprend pour cette communauté de communes un peu moins de 10 000 habitants, une densité de 48 habitants au kilomètre carré. C'est bien inférieur à la moyenne nationale, hein, qui dépasse les 100 habitants au kilomètre carré. Donc on est dans un espace rural à 17 kilomètres de Bourg-en-Bresse. Vous avez fait un diagnostic avec des réunions publiques?
Alors oui, il y a eu 3 réunions publiques organisées sur les communes situées dans la vallée du Suran, qui avait comme objectif de confronter le projet aux envies, aux idées aussi des habitants et de voir si l'implantation de la fabrique serait pertinente sur ce territoire. Et du coup, derrière ça, de définir qu'est-ce que la fabrique allait concrètement proposer,
oui,
en termes d'animation, d'activité, d'espace existant, etc.
Et vous avez donc soumis aux habitants, lors de ces réunions publiques, une question qui était les attentes en matière de besoins de services et d'activités. Qu'est-ce qui ressortait des attentes? Qu'est-ce que vous avez pu identifier?
Alors, ce qui est ressorti, c'était que le Revermont, c'est un territoire rural, comme vous l'avez dit, où il y a quand même une forte présence d'associations locales, etc. mais qui pouvait manquer de lieux de rencontre et de coopération entre ces associations. Et du coup, l'analyse de ces réflexions a fait que on voulait que la fabrique soit un lieu ressource pour la vie associative et locale, un espace de rencontre, un lieu de développement économique et un lieu d'accueil de groupe. Donc, il y a plusieurs espaces qui vont se créer sur ce lieu, donc un gîte de groupe d'une trentaine de places, différentes salles de réunion, de bureaux, et également une salle de spectacle qui était un peu le point qui nous paraissait vraiment essentiel pour répondre aux besoins du territoire.
Ouais. Et quand vous parlez de développement économique, ce développement pourrait porter sur quel type d'économie ?
Alors nous, ça passerait par la création d'un espace de coworking, par exemple, où des personnes pourraient travailler sur le territoire du Revermont, avec à disposition des bureaux, etc., en lien avec un espace convivial aussi autour de ça. Il y a d'autres projets derrière aussi, notamment de Fab Lab, d'information pour les jeunes, etc. Et pourquoi pas d'accueillir une activité qui serait un peu plus structurante sur le lieu. Quelqu'un qui nous propose un projet professionnel qui nécessite d'aménager un espace dans la fabrique, ça serait possible.
Oui. Et alors, c'est grâce au MRJC, entre autres, et au Fonds National du MRJC, que vous avez pu faire l'acquisition d'une grande maison. Entre l'achat et la rénovation, l'estimation est à hauteur de 500 000 euros. Vous avez bénéficié d'une belle aide du mouvement national. Sans cette aide, vous ne pouviez pas monter ce projet.
Alors oui, ça fait partie de la stratégie économique de l'association du MRJC. Il nous manque quelques cofinancements à trouver. Et l'objectif derrière, c'est de rembourser petit à petit l'aide apportée au début par le MRJC au niveau national.
Bien sûr. L'ouverture est prévue à l'été 2019, parce qu'il y a beaucoup de travaux. Allez visiter le site, vous allez découvrir cette fabrique. Quelle belle idée de fabrique du monde rural. fabrique-revermont.fr. Et puis, il y a une page aussi Facebook dédiée au mouvement qui est à l'origine de cette fabrique dans le Revermont dans l'Ain. Merci Elie Janin.
Merci.
Et je vous rappelle qu'au mois d'octobre, nous serons dans le Rhône, l'Orne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Continuez à nous capter depuis ces territoires, les acteurs, actrices qui en valent le détour, le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet, aujourd'hui à Poncins.